Car Héloïse, on retourne sur la face cachée de la Lune, car il s'y passe donc des choses étonnantes.
Oui Mathieu, la nouvelle fait la une de la presse ce matin, elle est assez poétique, parce que pendant que nous parlons, une petite pousse de coton est en train de se développer sur la Lune.
Ah, c'est beau.
C'est très beau, ce petit miracle a lieu à bord de la sonde Chang'e 4. Chang'e 4, vous savez, c'est cette sonde chinoise qui s'est posée au tout début du mois de janvier sur la face cachée de la Lune. Mm-hmm. Elle est partie pour explorer l'environnement lunaire, mais elle a aussi emmené dans ses bagages des graines de coton, de pommes de terre et de moutarde, et même des œufs de mouche et de la levure. Eh bien, une graine de coton vient de germer, on a même reçu une photo de l'événement.
Elle est moche la photo, hein.
Elle est très moche.
Il faut
moche.
Le dire tout de suite, elle est très très moche.
Mais c'est la première fois que quoi que ce soit pousse sur la Lune,
c'est
donc
vrai.
Ça vaut le coup d'en parler. Et pour en parler, nous sommes au téléphone avec Francis Rocard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien et vous êtes aussi responsable des programmes d'exploration du système solaire au CNES. Alors, comme on disait, la nouvelle fait sensation. Vous, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est une démonstration qui nécessitera beaucoup de suites, mais est-ce qu'on peut faire pousser sur la Lune des plantes? Apparemment, ça commence à pousser, mais ce n'est qu'un tout début, puisque seule la germe de coton a poussé, les autres, on attend d'avoir les infos.
C'est la démonstration de quoi, Francis Rocard, alors?
Alors, la démonstration, c'est que sur Mars, on va y rester un an et demi, et on va pas emmener les choux-fleurs et les patates, on va emmener les graines. Et donc, il va falloir faire pousser tout ça là-bas, et il faut être sûr que ça pousse. Donc, il va falloir faire des démonstrations à petite échelle d'abord, c'est ce qu'ont commencé à faire les Chinois sur la Lune, et puis ensuite à plus grande échelle, parce qu'après il y a un aspect quantitatif, combien d'hectares faut-il pour nourrir 6 personnes pendant un an et demi.
C'est vrai que c'est une jolie nouvelle, mais il faut quand même rappeler que ce n'est pas la première fois qu'on fait pousser du végétal dans l'espace.
Non, dans l'ISS, donc en gravité zéro, eh bien, on a fait pousser des notamment de la salade et les astronautes l'ont mangée. Donc, elle est comestible.
Ah.
Jusqu'à maintenant, ils vont très bien, merci. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, on savait qu'on pouvait faire pousser des choses, mais maintenant, des démonstrations sont faites. Et après, il faut améliorer le système, commencer à regarder rendement, etc., etc.
Alors, pour être bien clair, on n'a pas directement mis une graine dans le sol lunaire. C'est en fait un module qui a favorisé cette germination. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer dans quelles conditions cette graine a germé?
Oui, en fait, c'est une petite boîte qui fait 1 ou 2 litres de volume, totalement fermée, étanche, avec un hublot pour que la lumière passe à travers et fasse la photosynthèse qui permet la germination. Et dès qu'ils se sont posés sur la Lune, ils ont mis de l'eau sur les graines, et tout ça est maintenu à bonne température, en présence d'oxygène, et ensuite ils ont pris des photos régulièrement, et ils se sont aperçus que la graine de coton se mettait à germer.
Et d'ailleurs, c'est la seule à avoir germé pour le moment. On s'imagine qu'il va falloir suivre l'expérience un peu sur le long terme pour en tirer des conclusions.
Oui, il va falloir suivre ça sur le long terme. Alors, ils ont le même module témoin sur Terre pour comparer sur le plan quantitatif la germination des plantes sur la Lune et sur Terre. Est-ce que c'est plus favorable sur la Lune? Est-ce que c'est plus favorable sur Terre? Il y a encore pas mal d'inconnus. Je suis pas sûr que la gravité y soit pour beaucoup. Par contre, l'ensoleillement, est important. Et donc, tout ça doit être quantifié avant de réellement envoyer des serres de grandeur nature pour nourrir un équipage.
Vous l'évoquiez un petit peu au début, mais vraiment, est-ce qu'on sait ce que cherchent à prouver les scientifiques chinois avec cette expérience? Il y a plusieurs hypothèses. Où ils veulent en venir avec ces graines?
Pardon. Je crois qu'il y a 2 aspects dans tout ça. Le premier aspect, c'est mettre au point un protocole de culture de végétaux pour nourrir un équipage qui, encore une fois, devra rester un an et demi sur Mars. Donc ça, c'est un objectif à très long terme et qui passe par des démonstrations progressives sur la Lune, et ensuite la même chose devra être faite sur Mars. Le deuxième intérêt, c'est aussi que les plantes, par un mécanisme de photosynthèse, absorbent le CO2 et recrachent de l'oxygène. Or, dans les modules d'habitation, que ce soit sur la Lune, sur Mars ou dans l'ISS, les hommes respirent et donc ils recrachent du CO2. Et donc le recyclage du CO2 est également intéressant. Donc ces 2 aspects sont probablement à prendre en compte.
Pour l'instant, ce sont des machines qui recyclent le CO2, c'est ça ?
Oui, aujourd'hui, ce sont des machines qui ont des rendements de l'ordre de 40%, qui sont très énergivores. Ça demande beaucoup d'énergie pour casser la molécule de CO2 sur des métaux à haute température. Mais la photosynthèse le fait naturellement. D'où l'idée d'avoir des serres qui absorbent le CO2. Il y a eu même des tests en grandeur nature sur Terre qui ont malheureusement échoué. Mais l'idée est toujours la même, c'est est-ce qu'avec beaucoup de végétation, on arrive à maintenir le niveau de CO2 constant dans un milieu clos? Et c'est pas si simple que ça, mais l'idée est toujours la même.
Et pour nourrir un équipage sur Mars, on imagine qu'il faudrait aussi des quantités de plantes et donc des moyens très très importants. Ça vous paraît réaliste à court terme ou moyen terme?
Alors, ça, c'est très difficile de répondre à cette question, parce que pour l'instant, personne ne donne de chiffres, mais effectivement, nourrir un équipage de 6 personnes va nécessiter beaucoup de cultures hors sol, donc on n'est pas dans le sol de Mars, on est sur du substrat synthétique, dans lequel on rajoute tout ce qu'il faut, on rajoute l'eau, on rajoute les nitrates, toute la nourriture pour que les plantes poussent, et donc tout ça se fera dans des clés, avec probablement des lampes à ultraviolet pour faciliter la pousse, et maintenant tout l'aspect quantitatif reste à être établi. Combien de serres artificielles, combien de modules il faudra poser sur Mars pour nourrir un équipage? C'est pour moi une grande inconnue aujourd'hui.
Enfin, rassurez-moi, Francis Rocard, on va pas les nourrir avec du coton quand même, ces futurs astronautes martiens?
Alors non, le coton bien sûr que non, mais vous savez, il y a des graines de moutarde. Bon, la moutarde, oui, c'est juste fait pour agrémenter le beefsteak. Mais vous avez des graines de... j'ai oublié, mais vous avez des graines un peu plus intéressantes. Mm-hmm. Vous avez même des larves de mouches.
Bon.
Donc ça, c'est pas pour faire... ça n'a aucun intérêt d'avoir des mouches dans une station spatiale.
Ah oui, non.
Mais c'est de voir si ces larves poussent dans un environnement particulier qui est l'environnement de la Lune.
Merci beaucoup en tout cas pour ces précisions, Francis Rocard, donc avec cette germination de coton sur la Lune effectuée donc par des Chinois, et ça fait la une de l'actualité dans le monde entier aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, et puis Héloïse, on se retrouve demain.
À demain Mathieu.
Et en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, pour éloigner les temps, les humains pourraient gagner à s'inspirer des zèbres. C'est ce que pensent des chercheurs qui publient leur étude dans la revue Royal Society Open Science. Selon eux, les rayures des zèbres exercent un effet répulsif sur les temps et les protègent de leurs piqûres. Et cette ruse fonctionnerait également chez l'homme. Ils ont vérifié cela en exposant des personnes aux insectes et des mannequins humains en plastique recouvert, ou non d'ailleurs, de rayures blanches. Et cet effet anti-temps fonctionnerait en fait avec tous les motifs, car il diminue la polarisation de la lumière réfléchie par le corps, ce qui rendrait donc les chairs humaines moins appétissantes pour les temps. Si vous recherchez une motivation de plus pour vous mettre au sport, une nouvelle étude publiée à grande échelle dans le European Heart Journal peut vous la fournir. Il est connu depuis longtemps qu'une bonne condition physique est un facteur protecteur pour notre santé, mais les auteurs de l'étude affinent les connaissances. Ils révèlent qu'une mauvaise condition cardio-respiratoire et donc une faible capacité de l'organisme à absorber l'oxygène de l'air serait liée à une augmentation du risque d'accident cardiaque. Les chercheurs suggèrent que pratiquer régulièrement une activité physique qui essouffle pourrait aider à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Et puis enfin, une étude de l'Université des Nations Unies nous apprend que les usines de dessalement des eaux, de plus en plus nombreuses dans le monde, produisent en réalité plus de rejets toxiques que d'eau douce. Pour chaque litre d'eau douce destinée à la consommation humaine ou à l'industrie, une usine rejette en moyenne 1,5 litre de saumure, une boue ultra saline. La plupart des usines proches de l'océan le font directement dans la mer ou dans les rivières et les eaux de surface, où la concentration en sel bouleverse les écosystèmes et accroît la température de l'eau.